Le journal avec vous, Frédéric Beigneda, bonsoir.
Bonsoir à tous. Entre commémoration et politique, Emmanuel Macron célèbre la part d'Afrique de la France lors des cérémonies du 75e anniversaire du débarquement de Provence à Saint-Raphaël. Le chef de l'État appelle les villes et les villages de France à rebaptiser des rues et des places pour rendre hommage aux soldats venus d'Afrique pour libérer le pays. Nous l'entendrons dans quelques instants. Le soulagement dans le sud de la France, le feu qui a détruit près de 900 hectares de forêt près de Carcassonne est en passe d'être maîtrisé. Les pompiers ont pu profiter cet après-midi d'une accalmie des vents. À l'étranger, le soulagement également pour les 147 migrants de l'Open Arms, le navire humanitaire espagnol. 6 pays de l'Union européenne dont la France sont prêts à les accueillir. Un revers pour Matteo Salvini en Italie, recadré par la ministre de la Défense cet après-midi. La politique, dit-elle, ne doit jamais perdre de vue l'humanité. Au téléphone sonne ce soir, Éric Delvaux, vous nous parlez des démarches téléphoniques abusives.
Et oui, vous savez, tous ces appels intempestifs qui nous font immédiatement regretter d'avoir décroché. Alors cela dit, on verra qu'il y a du mieux depuis 15 jours. Et que dit la future loi en préparation à l'Assemblée nationale. Ce soir, c'est vous qui nous appelez. 01 45 24 7000. Rendez-vous effectivement après le journal.
Éric Delvaux, la météo, ce sera une belle journée ensoleillée. Demain, prévision complète d'Élodie Calac à la fin de ce journal. Sous un soleil radieux, Emmanuel Macron a donc rendu hommage ce matin à Saint-Raphaël aux soldats africains qui ont permis de libérer la France lors du débarquement de Provence le 15 août 1944, il y a 75 ans. Le chef de l'État a lancé un appel à tous les maires de France pour que des rues ou des places portent le nom de soldats africains. Une façon, a dit le chef de l'État, de leur donner la gloire qu'ils méritent et l'estime que leur bravoure justifiait. Rappelons que les soldats africains formaient la majorité du contingent des 450 000 soldats du débarquement allié en Provence. On écoute tout de suite le président.
La France a une part d'Afrique en elle. Et sur ce sol de Provence, cette part fut celle du sang versé. Nous devons en être fiers et ne jamais l'oublier. Les noms, les visages, les vies de ces héros d'Afrique doivent faire partie de nos vies de citoyens libres. Parce que sans eux, nous ne le serions pas. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel aux maires de France pour qu'ils fassent vivre, par le nom de nos rues et de nos places, par nos monuments et nos cérémonies, la mémoire de ces hommes qui rendent fiers toute l'Afrique.
Une déclaration forte du chef de l'État qui suscite ce soir de nombreuses réactions, qui enchante les vétérans et qui satisfait l'aile gauche de la majorité, Maxence Lambrecq.
Oui, un appel solennel qui fait vibrer le cœur des anciens socialistes et plus largement toute l'aile gauche de la majorité qui ne cesse d'attendre ce genre de signaux positifs. Eux qui ont un peu de mal avec la politique migratoire d'Emmanuel Macron et toutes ses accolades avec Nicolas Sarkozy. Les voilà ce soir satisfaits par ce message. Aurélien Taché, député LREM du Val-d'Oise.
Pour les jeunes générations, pour celles qui parfois s'interrogent sur leur histoire, sur leur place dans notre pays, pour tous ces enfants d'immigrés dont les ancêtres sont nés en Afrique et qui sont aujourd'hui français, cette reconnaissance, elle est extrêmement importante. Et faire vivre ce devoir de mémoire à travers ces symboles que sont les noms de nos rues, de nos monuments, de nos bâtiments, je crois que c'est quelque chose de déterminant et je suis certain que beaucoup d'élus s'y engageront.
Pas si sûr. À première vue, l'Association des maires de France n'est pas emballée par cet appel, qui n'ont d'ailleurs pas encore relayé. En tout cas, sans surprise, les maires du Rassemblement National ne joueront pas le jeu et dénoncent déjà une instrumentalisation de l'histoire. Laurent Jacobelli, porte-parole du RN.
Emmanuel Macron n'a pas pu s'empêcher effectivement d'instrumentaliser la cérémonie d'aujourd'hui pour envoyer un signe à sa gauche en voulant donner des noms de rue aux soldats venant d'Afrique pour bien montrer sa vision immigrationniste de la France. Donner le nom d'une rue, pourquoi pas, mais à ce moment-là, avec un régime d'égalité pour tous les combattants.
Certains militaires d'ailleurs craignent que le moindre ancien combattant devienne maintenant un héros. Ce sont de toute façon les conseils municipaux qui en décideront, et généralement, ils sont assez frileux à l'idée de changer les noms des rues, ne serait-ce que pour des histoires de GPS et de perte du courrier. Qu'importe pour Emmanuel Macron, le message est passé et il ne lui a rien coûté.
Merci Maxence Lambrecq. L'optimisme prudent des pompiers sur le front des incendie dans le sud de la France. Le feu qui a parcouru près de 900 hectares de pinèdes et de broussailles dans l'Aude près de Carcassonne est maîtrisé. Plus de 500 pompiers restent toutefois mobilisés pour éviter toute reprise. Des pompiers fatigués, exténués, autour desquels la solidarité s'organise, comme a pu le constater Emeline Ferry à Pradelenval.
Du pâté, des sandwichs et du café chaud. Une bonne surprise attendait Laetitia Chartrain et ses collègues pompiers cet après-midi quand ils sont venus recharger les camions à la bouche à incendie.
Ils ont été stratégiques, ils se sont mis juste à côté du point d'eau où on vient chercher notre eau et donc du coup comme ça ils peuvent toucher tout le monde. et ils distribuent à manger.
Un buffet improvisé par les habitants dans un garage.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
C'est gentil.
C'est normal. C'est le minimum quand même.
Muriel, une riveraine, ne pouvait pas rester les bras croisés.
On a fait des gâteaux au chocolat, thermos de café, jambon, pain, pâté, enfin voilà. De quoi les nourrir et les remercier. C'est citoyen, c'est normal. Ils nous sauvent nos villages, donc c'est quand même normal.
Ici, personne n'a fermé l'œil de la nuit, ni les habitants, ni les pompiers. Alors un peu de répit et de bonne humeur, ça fait du bien à tout le monde. La tension retombe, explique le lieutenant Serge Moulet.
On a la chance de tomber sur des gens charmants qui s'occupent de la logistique, puisque depuis hier midi, nous n'avons pas à manger. Si ce n'est que des cafés et des friandises un peu que l'on peut trouver à droite à gauche. Tellement le sinistre était conséquent.
De quoi reprendre quelques forces, mais le travail n'est pas encore terminé pour les pompiers. Il faut rester mobilisé au moins jusqu'à la tombée de la nuit pour éviter les reprises de feu.
En ce 15 août, les catholiques ont célébré aujourd'hui l'Assomption, une procession de la Vierge dans un climat très particulier. Ce matin à Paris, près de 4 mois après l'incendie de Notre-Dame, cette année pas de sortie par le grand porche central de la cathédrale, l'édifice étant fermé et protégé par de hautes barrières pour éviter la contamination au plomb. À Lourdes, ils étaient un petit peu plus de 20 000 à célébrer cette fête religieuse.
Le journal de 19h sur France Inter.
Bien malgré eux, ils se retrouvent au centre de la crise politique italienne. Depuis que Matteo Salvini a fait voler en éclats le gouvernement de coalition, il s'agit des 147 migrants recueillis sur le navire de l'organisation humanitaire espagnole Open Arms. Le bateau a été autorisé à jeter l'ancre près de l'île de Lampedusa, au grand dam du ministre de l'Intérieur. Et 6 pays, dont la France, l'Allemagne, la Roumanie, le Portugal, l'Espagne et le Luxembourg, ont indiqué qu'ils étaient prêts à recevoir une partie de ces migrants. La revanche, en quelque sorte, de Giuseppe Conte, qui s'est empressé de remercier ses homologues européens, règlement de compte sur fond de crise migratoire. À Rome, Antonino Gallofaro.
Non, Matteo Salvini ne fera pas campagne électorale sur le dos des migrants et encore moins sur le dos de son propre gouvernement. Qu'importe si le chef de la Ligue fait de tout pour faire tomber l'exécutif, quitte à le bloquer, le Premier ministre ne veut laisser aucune marge de manœuvre à l'homme qui est encore son ministre de l'Intérieur. Dans une communication privée, le président du Conseil avait invité son ministre de l'Intérieur à faire débarquer au moins les mineurs présents à bord de l'Open Arms, le navire de l'ONG espagnol toujours au large de Lampedusa. Mais Matteo Salvini avait interprété cette invitation comme une position contraire à sa politique des ports fermés. Dans une lettre publique, son chef l'accuse donc de déformer ses propos. Giuseppe Conte y voit un énième exemple de collaboration déloyale qu'il ne peut accepter, celle de trop donc. Il lui rappelle ainsi qui est le vrai chef du gouvernement et qu'un ministre tout seul ne peut pas faire comme bon lui semble. L'avocat propulsé au sommet de l'État il y a un an avait promis qu'il comptait rendre cette crise politique qu'il subit la plus transparente possible. Matteo Salvini n'a donc pas en face de lui un simple pion comme il le pensait quand il avait choisi le Florentin avec le mouvement 5 étoiles pour en faire le simple exécuteur de leur coalition. Rome, Antonino Gallofaro, France Inter.
Décidément, le torchon brûle entre Donald Trump et Google. Il y a quelques jours déjà, le président américain avait accusé Google de vouloir manipuler la prochaine présidentielle dans la perspective de le faire perdre en 2020, et ce suite à des propos d'un ancien ingénieur du groupe californien. Des salariés de Google particulièrement agacés par la gestion de l'immigration par l'administration Trump, à tel point qu'ils demandent publiquement à leur entreprise de ne plus participer aux appels d'offres du gouvernement américain dans ce domaine, pour ne pas disent-ils être complices des violations des droits de l'homme à la frontière. À Los Angeles, les explications de Loïc Piala.
Au moins 7 enfants sont morts sous la surveillance des services américains de l'immigration. La politique de séparation des familles à la frontière choque aussi de nombreux citoyens du pays, y compris des Googlers, le surnom des employés de Google. Il est temps de dire non, prévient leur pétition publiée sur le site Medium. Il est inadmissible que Google ou toute autre firme technologique soutienne des agences gouvernementales enfermant et torturant des gens vulnérables, dit le texte. Ces agences ont notamment besoin de l'expertise de la Silicon Valley pour la mise en place de leurs serveurs informatiques et la gestion de leurs données. Pour l'instant, la pétition n'a rassemblé que quelques centaines de signatures, des miettes par rapport aux 85 000 Googlers à travers le monde. Mais ces deux dernières années, la mobilisation de ses employés a poussé la société californienne à agir. Sous la pression, Google a suspendu le projet Maven, un partenariat avec le Pentagone en matière d'intelligence artificielle. Le géant de la Silicon Valley a également renoncé au projet Firefly, une version censurée de son moteur de recherche pour le marché chinois. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Guerre des mots et bruit de bottes. La Chine ne restera pas les bras croisés si la situation devient incontrôlable à Hong Kong. C'est la mise en garde de l'ambassadeur chinois à Pékin, aussitôt rappelé alors et convoqué au Foreign Office. Des propos inacceptables pour le Royaume-Uni, qui un peu plus tôt dans la journée s'était vu reprocher d'être encore plongé dans les fantasmes des anciens colons britanniques. Une chose est sûre, la tension monte entre la Chine et Hong Kong sous la menace d'une intervention du pouvoir central. Info ou intox, depuis ce matin, les forces de l'ordre sont rassemblées dans un stade à Shenzhen, aux portes du territoire autonome. La guerre des mots est surtout des nerfs, Nathanaël Charbonnier.
Il y a les images et il y a les mots. Les images, ce sont celles de camions et blindés qui se regroupent dans la ville de Shenzhen, ville qui se trouve aux portes de Hong Kong, à 7 km côté chinois. Les images ont été diffusées par des organes de presse pro-pouvoir, à savoir le quotidien du peuple et le journal Global Time. Ils font état de manœuvres par des hommes en treillis, la plupart seraient massés dans un stade de la ville. Ces hommes appartiendraient à la police militaire, certains défileraient même en brandissant des drapeaux rouges. Voilà pour les images que Pékin laisse passer pour mieux impressionner les Hongkongais. Maintenant, il y a les mots, il y a ceux des autorités de Pékin qui ont parlé en évoquant Hong Kong de manifestations quasi-terroristes, et il y a ceux prononcés aujourd'hui par l'ambassadeur de Chine à Londres. Lors d'une conférence de presse, il a expliqué que si la situation continue à se détériorer et que les troubles deviennent incontrôlables par le gouvernement de Hong Kong, alors le gouvernement central ne restera pas les bras croisés. L'ambassadeur rappelant une nouvelle fois que Hong Kong fait partie de la Chine.
À quelques jours du sommet du G7 à Biarritz, un activiste allemand expulsé de France, l'individu considéré comme d'ultra-gauche, a été interpellé vendredi dernier à Dijon. Il faisait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. Partira ou ne partira pas malgré la tentative de blocage des Américains. La Cour suprême de Gibraltar autorise le pétrolier iranien à raisonner début juillet à quitter le territoire britannique. Un pétrolier soupçonné par les États-Unis de vouloir livrer sa cargaison à la Syrie, frappé par un embargo de l'Union européenne. Les États-Unis avaient demandé la saisie du navire. Il n'y a aucun soupçon d'acte criminel. Ce sont les conclusions de la police malaisienne après les résultats de l'autopsie du corps de la jeune Nora. Nora, 15 ans. Disparu il y a une dizaine de jours avant que son corps ne soit retrouvé dans un ravin non loin de l'hôtel où elle résidait avec ses parents. La jeune franco-irlandaise a succombé à une hémorragie interne, sans doute liée à la faim et au stress, précise l'autopsie. C'est pur sang Val de l'Or, parfois jusqu'à plusieurs milliers de dollars. La prestigieuse vente de Yearling de Deauville a lieu ce week-end, une vente aux enjeux considérables. Le haras des Capucines dans l'Orne, où s'est rendue Delphine Evenou, y envoie ses meilleures pouliches.
Plus de 2,5 millions d'euros pour un Yearling en 2015, c'est le record. Éric Puirari, lui, estime ses meilleures pouliches à 300 000 euros, des sommes astronomiques pour les non-initiés, mais c'est bien plus qu'un cheval qui s'acquiert, explique le propriétaire du haras.
On vend du rêve. On voit un cheval qui est athlétique, mais qui n'a rien fait encore, et à chacun déterminer son potentiel.
Et pour cela, acheteurs comme vendeurs suivent assidûment les courses.
C'est comme les cours de la bourse. On regarde tous les jours la cote. Change parce qu'on a une victoire de plus ou un cheval qui déçoit éventuellement. Moi, je suis les courses non seulement françaises, mais anglaises, japonaises. Les États-Unis, c'est important aussi.
Pour briller sur l'hippodrome, le cheval doit avoir été bien élevé.
Mon chouchou à moi, elle est là-bas à droite.
Ça, c'est le travail d'Anthony.
Elle est pas grande, elle est pas petite.
Chef de l'unité Yearling du haras des Capucines.
Elle marche très très bien, elle est très élégante. Pour moi, c'est la pouliche parfaite.
Quand la pouliche quittera Deauville dans une direction différente, pas de tristesse.
On sort pas, si je m'attache.
C'est plus d'un an de travail qui s'apprête à être consacré est le meilleur moment de cette intense période de vente.
Quand c'est fini, quand on passe avec son cheval dans le ring à Deauville et quand le commissaire Pruder il a dû, j'ai ta pouliche est vendue, là tu dis ouf, le travail était fait.
L'année dernière, la vente de Yearling de Deauville a généré près de 38 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Impossible à oublier, il y a 50 ans, débutait le festival le plus mythique de toute l'histoire du rock, Woodstock, sur la côte est des États-Unis, dans le nord de l'État de New York. Un demi-million de spectateurs pour trois jours de paix et de musique, qui ont marqué à tout jamais ce qui y était et ce qui n'y était pas aussi. Woodstock en musique, et pour se souvenir, une bande dessinée, Jacqueline Petrose.
C'est comme un reportage, 12 chapitres où les auteurs collent à l'histoire musicale et politique de Woodstock. La jeunesse conteste la guerre au Vietnam, demande la paix, plus de liberté, parle déjà d'écologie. Woodstock, c'est un monde en devenir. Nicolas Finet, le scénariste.
Il y a aussi l'émergence de la question des femmes, l'émergence des questions raciales où on peut cohabiter entre races, et même les questions du genre commencent à apparaître. Cette jeunesse était d'une certaine manière en avance sur son temps. La jeunesse de cette époque était très chahutée, hein, faut se souvenir. souvenir que l'Amérique de cette période, c'est un pays en guerre. Il y a eu 2 assassinats l'année précédente de Martin Luther King et de Robert Kennedy. Donc tous ces gens sont traumatisés. Et il y a une espèce d'espoir collectif, d'espoir commun, partagé, qui est d'essayer justement de se retrouver davantage et une grande joie.
Avec une trentaine d'artistes sur scène, c'est aussi l'apothéose du rock'n'roll.
L'histoire du rock, en effet, a basculé au moment de Woodstock. C'est le moment où la grammaire du rock s'est construite ou s'est développée. Et puis ça a duré quelques décennies.
Forever Woodstock, en dessin clair et couleur psychédélique, nous fait retrouver la fraternité qui a marqué ce festival historique sans nostalgie. Ce roman graphique est accompagné d'indications de bande-son qu'il n'y a qu'à suivre pour revivre des performances d'anthologie comme celle un peu oubliée de l'extraordinaire Alvin Lee.
Il y a 50 ans, il y avait eu un gros orage à Woodstock qui avait transformé le site en véritable champ de boue. Ce sera plus calme, beaucoup plus contrasté sur la France, Élodie Calac.
Oui, sur le sud, demain, un grand soleil avec quelques nuages ou brouillards possibles tout de même vers le nord de l'Aquitaine, mais ça ne durera pas. Il restera du Mistral jusqu'à 50 km à l'heure. Pareil pour le vent d'ouest sur le sud de la Corse. La tramontane se calmera. Sur la moitié nord, là, ce sera plus mitigé. Sur le nord-ouest, jusqu'au nord de la Seine, une matinée bien encombrée avec du brouillard en prime. Ce sera plus lumineux ailleurs. Et puis l'après-midi, ça s'éclaircira, mais à l'approche d'une perturbation, les nuages garderont quand même l'avantage sur les régions voisines de la Manche, avec parfois une petite ondée, de la pluie pour la pointe bretonne, et puis on ajoutera à ça un vent de sud-ouest entre 50 et 70 km à l'heure sur les côtes.
Il fera aussi plus chaud, Élodie.
Oui, 19 degrés à Brest sous la pluie l'après-midi, mais ailleurs ça monte en effet, 23 degrés à Deauville, 25 à Nantes et à Strasbourg, 27 à Paris, 28 degrés à Lyon, 30 à Bordeaux, à Toulon et 33 du côté de Nîmes.
Élodie Calac.